Bonjour. Dans les années 80, avec une petite équipe de chercheurs, dont beaucoup sont ici présents, et avec la faconde de la jeunesse, nous avions, pour dépoussiérer cet écrivain, privilégié sa poétique et sa rhétorique aux dépens de sa théologie et de sa spiritualité. Aujourd'hui, je reviens à Blois, après 30 ans d'infidélité. Et j'ai employé ces années à élargir le champ qui m'avait ouvert en étudiant les rapports du rire et du sacré dans l'histoire, et plus précisément dans la littérature française fin de siècle. Aujourd'hui, je voudrais montrer que le rire de Blois représente un moment violent de cette histoire des relations du rire et du sacré entre archaïsme et modernité. Mais j'ai ajouté un troisième terme, la violence, parce que dans cet intervalle, un événement s'est produit, l'attentat contre Charlie Hebdo. Depuis, je ne peux plus lire Blois sans penser à l'aspect noir des intégrismes. Je ne peux plus me contenter de porter sur Blois le Blois apocalyptique et incendiaire, le regard distancié, parfois amusé, de l'universitaire sur ce tigre de papier. J'ai maintenant un compte à régler, non seulement avec Blois, mais avec une question qui le dépasse, le religieux. Voilà, alors, nous sommes trois à parler ce matin de la violence, et pour vous mettre en appétit, je vous dirai, après mes échanges avec mon ami Pierre Claude, je n'ai pas eu la chance d'échanger avec ma voisine, je dirais que nos approches sont très différentes, et aboutissent à deux Blois assez différents, complémentaires, à vous de juger. Moi, je prendrai la violence sous l'angle du rire. Je centrerai mon exposé sur la violence du rire paradoxal de Blois, en deux temps, deux parties, le texte et le contexte. Et puisque je suis le premier à parler, deux remarques préalables. Premièrement, l'homme Blois n'était pas violent. Et donc son rire est différent de sa prose. Deuxième remarque, la violence verbale de Blois rejoint celle de son époque. Blois n'est pas seul. L'œuvre de Blois a poussé dans deux terreaux, deux écosystèmes, comme on dit aujourd'hui, le milieu catholique, mais qui se sont interpénétrés, le milieu catholique et le milieu artiste, via Barbé d'Aurevilly. Michel Vinocq, dans un livre qui vient de sortir, sur la décadence fin de siècle, que certains peut-être ont déjà lu, attribue à ces deux mondes, le monde artiste, le monde catholique, attribue un même état d'esprit qu'il appelle le sentiment de décadence, qui consiste pour lui en un sentiment de délitement de la société, de décrépitude générale, d'un monde ancien, et c'est lié au refus du monde nouveau qui se dessine. Et Michel Vinocq voit une certaine proximité avec notre situation aujourd'hui. De même, l'extrémisme verbal de cette époque, qui nous étonne aujourd'hui, est partagé par les deux camps, libre penseur et parti catholique. Par exemple, il ouvre le dossier très intéressant de l'incendie du bazar de la Charité. On a beaucoup reproché à Léon Blois la violence de sa réaction à l'événement. Mais il n'est pas le seul à se repaître de ce que Vinocq appelle des horreurs grand-guignolesques. Vinocq peut parler d'une fin de siècle sadique. Et il n'y a qu'à voir le sermon du père Olivier du haut de la chaire de Notre-Dame, hein, devant le président de la République. Hein. Son interprétation sacrificielle de l'événement est très violente. La France mérite ce châtiment, ce siècle scientiste est puni. Le sacrifice des innocents va régénérer la France. Même théologie sacrificielle chez Blois. Mais pour lui, et ça change tout, le grand scandale, c'est la compromission de l'Église avec l'argent. Les mots chez Blois sont sacrés. Bazar de la charité. Le nom terrible, je cite là, le nom terrible et brûlant de Dieu réduit à la condition de génitif de cet immonde vocable. Voilà le véritable fondamentalisme de Blois, son littéralisme. Il est capable de prendre feu pour des mots. Alors d'ailleurs, il continue, le feu a été déchaîné, et en majuscule, tout est rentré dans l'ordre. Alors, on imagine bien que cet ordre-là n'est pas pour Blois l'ordre établi, hein, l'ordre moral de MacMahon. Hein. Il est d'un autre ordre, au sens pascalien du terme, surnaturel. En même temps, Blois bascule dans un autre camp, celui des écrivains qui ont pratiqué une solidarité de plumes, comme dit Michel Vinocq. Blois est complexe, paradoxal, contradictoire. Blois didyme, comme l'a si bien nommé mon ami Joseph Royer. Je voudrais appliquer cette formule au rire et au sacré chez Blois. Dans tout ce qu'il écrit, il y a un non-dit qui renvoie à la face cachée de Blois, ou à demi-cachée, l'autre Blois, et qui oblige le lecteur à une lecture au second degré, sur deux registres, souvent, par exemple, sous le comique trivial, il faut saisir la tragédie sublime. Sous une histoire de mœurs naturaliste, l'histoire de la Sainte Trinité. Blois est un auteur difficile. Ma trompette à moi est jumelle et pourvue de deux embouchures, l'une pour le hareau, l'autre pour l'hosanna. On connaît cette formule, souvent on la prend en considérant qu'il y a deux trompettes pour Blois, ou une trompette qui tantôt, dit le trivial, prend le ton haut, tantôt le ton bas. En fait, c'est une seule trompette. Hein. Et donc il souffle à la fois, le grave et l'aigu, le chaud, le froid. C'est un beau jouet pour faire du bruit, mais c'est une certaine cacophonie. Et l'humour souvent se cache et sourd sous le rire rugissant. J'avoue ma préférence pour le premier, sur le second rire. Et j'en donnerai deux exemples, une simplement, je n'ai pas le temps, j'en aurai d'autres, mais une phrase et un récit. La phrase, vous imaginez Léon Blois prononçant en vous regardant fixement, avec ses gros yeux et sa grosse moustache, « C'est moi qui ai lancé le glaçon qui creva les flancs du Titanic. » L'ange exterminateur vient de faire encore un carton. Je passe sur d'autres exemples. Maintenant le récit. C'est un conte désobligeant, à la fois grotesque et sublime, propos digestif, c'est-à-dire propos de fin de table. Et d'abord, c'est une satire féroce du milieu artiste. Le salon de Nina de Villars, semble-t-il, la petite baronne du carcan d'amour, comme on dit Blois. Alors Apémantus, le cynique, invente une parodie osée d'une parabole, la parabole préférée de Blois, celle du fils prodigue. La fin n'est pas dans l'évangile. On attendait le retour du fils prodigue, déboule dans le salon parisien une bande de cochons. On se croirait dans un film de Buñuel. C'est le démon pluriel, évidemment. Mais le second dénouement est dans la phrase finale, suivi donc d'un silence. La conversation en était là lorsque quelqu'un qui ne sentait pas bon fit son entrée dans l'appartement. Qui est ce quelqu'un ? Alors on peut hésiter entre deux références, triviales ou sublimes. On a parlé de Catulle Mendès, qui fréquentait le salon de Lina de Villard, et alors ce serait une méchanceté de plus de Blois, une vacherie. Mais aussi bien ce peut être le monstre invisible de l'iniquité spirituelle, comme dit Rutagère. À moi, cette figure de l'indicible, ce signifiant vide, quelqu'un, m'a fait penser à l'absent, avec une majuscule, à la fin du salut par les Juifs. C'est la troisième personne des grammairiens arabes ou benvénistes, celle dont on parle, la non-personne. Cette fois, elle va parler. Elle va dire « je ». Silence, alors là, je lis du salut par les Juifs, une voix d'en bas, voix d'exil, presque morte. Je passe. Cette troisième personne, c'est moi. Je suis l'absent de partout, l'étranger dans tous les lieux habitables. Michel de Certeau, analysant le discours mystique, y repérait ce qu'il appelle la faille de l'indicible. Pour moi, la faille de l'invisible, c'est ce silence final du conte. Il ajoutait un manque articule des antinomies et des paradoxes. On pourrait aussi citer Borges, qui dans un des contes de l'Aleph, intitulé « Les théologiens », manifestement inspiré par Blois et le Zohar, invente une secte des histrions qui, selon lui, affirmait « ce qu'il y a en bas est identique à ce qu'il y a en haut, et ce qu'il y a en haut identique à ce qu'il y a en bas ». Les histrions imaginèrent aussi que nos actes projettent un reflet inversé. On retrouve Blois. De sorte que si nous veillons, l'autre dort, si nous forniquons, l'autre est chaste, si nous accaparons l'autre, l'autre est prodigue. Et Borges conclut, un écho de ces doctrines est demeuré chez Blois. Bel hommage de Borges à Blois. Histrion à histrion. Et au cœur du conte, de ce conte des propos digestifs, Blois intervient pour nous révéler le secret de fabrication. Il lui dit la ficelle. C'est le magicien qui parle. Quelle est, si j'ose m'exprimer ainsi, la ficelle qui casse tout, l'arcane certain ? Le sésame de Polichinelle, qui ouvre les cavernes de l'émotion pathétique, l'écrivain à Paris, et qui fait infailliblement et divinement palpiter les foules. Mon Dieu, c'est très bête, c'est tout bonnement l'incertitude sur l'identité des personnes. Catulle Mendès, en Paraclet ou en Lucifer. Sérieux, pas sérieux. Cette idée du reflet inversé, est-elle de l'ordre du religieux ou de la facétie littéraire ? Tragédie dérisoire pour faire rire ou dérision tragique pour faire peur ? Signe vide ou figure d'apocalypse ? Ou les deux à la fois ? Blois ne cesse de le dire, il n'y comprend rien. Il est seul dans les ténèbres. Le rire de Blois éclate dans la nuit. Il y a donc quelque chose au-delà du figurable qui ne peut, qui ne doit pas être dit. Ni le rire, ni la colère ne sont les derniers mots chez Blois. Mais l'attente d'on ne sait quoi. Voilà pour le texte. Je passe au contexte. Léon Blois, dans son environnement, pour déterminer la portée de Blois jusqu'aujourd'hui, en élargissant successivement le cercle. D'abord, la rencontre de trois copains, Villiers de l'Isle-Adam, Huysmans et Blois, dans les années 85. Huysmans invite Villiers et Blois à dîner ou déjeuner, et voici le menu de la conversation. Dans une lettre d'invitation à Blois. Premièrement, les rôtis. Père de l'Église en daube, sauce exégèse, par le professeur de scatologie comparé, Jérémy Blois, dit l'extatique tombeur de mufles. Deuxièmement, légumes et desserts, symbole confit au vinaigre, sauce verte, visée hyper sublime, sautée sur gris, sentant le fagot, suivi d'un coulis de sombres aperçus, sorbets, par Marche Noire, l'illuminé. Et enfin, cas d'autodafé, par Léon Blois, torréfié, et eau de vie de Saint-Marc. Pour accepter cette invitation perfide, il fallait que l'exégète ne se prît pas trop au sérieux. Mais on peut dire aussi qu'on comprend que l'amitié ne put durer très longtemps. Ce qui réunit ces trois amis, c'est en particulier qu'ils sont les enfants et les amis, ou les amis, pour Villiers, de Baudelaire. Baudelaire qui écrivait, dans un fragment de Fusée, le mélange du grotesque et du tragique est agréable à l'esprit comme les discordances aux oreilles blasées. Et c'est ainsi qu'on voit Villiers et Blois, par exemple, rivaliser dans des contes de même sujet pour conjuguer le rire avec la peur. Mais je n'ai pas le temps de développer ça. Et je passe à une... J'élargis le cercle à deux amitiés surprenantes. Allais, Alphonse Allais et Alfred Jarry. Ces amitiés se sont nouées au cabaret du Chat Noir. Quelle affinité ! Elles ont été gardées jusqu'au bout de sa vie, semble-t-il. Quelle affinité entre ces deux mécréants et ce croyant ! Georges Auriol, qui est un contemporain et ami qui les a connus au Chat Noir, donne peut-être la clé. Le rapprochement peut paraître blasphématoire. Je le maintiens et je range dans la même escouade Léon Blois, Villiers de l'Isle-Adam et Alphonse Allais. Tous trois ayant été possédés par l'esprit de mystification. Ajoutons Jarry. Dans un article très amusant, le regretté Yves Relier, à qui je rends hommage en ce centenaire, Relier, essayant de répondre à la question « Blois riait-il ?», disait très justement « Blois n'est jamais aussi sérieux que quand il plaisante. » Blois disait lui-même « J'ai la mâchoire silencieuse. Mon rire même, quand je dévore les contemporains, ne réveillerait pas une araignée filandière. » Il y a de la farce et du cabotinage chez Blois. l'esprit de mystification. Dans son livre, sur la fin de siècle, Vinocq donne une place à la dérision. Et il fait cette remarque, très pertinente à mon avis, qu'il ne faudrait pas trop vite séparer le sérieux et le non-sérieux. Et il rappelle cette nouvelle bataille d'Hernani qui éclata lors de la première représentation du Buroi. Courteline, paraît-il, hurlait dans la salle « Vous ne voyez donc pas que l'auteur se fout de nous ?» C'était vrai et faux. À la fois, Jarry est farcesque et sérieux, à moins qu'on refuse, sans l'avouer, la violence de son propos. Dans la Revue Blanche, Jarry explique le malentendu avec une belle lucidité. Et le propos, à mon avis, vaudrait pour Blois. Dans ses mésaventures et les malentendus, il n'est pas étonnant que le public ait été stupéfait à la vue de son double ignoble. Fait de l'éternelle imbécilité humaine, de l'éternelle luxure, de l'éternelle goinfrerie, de la bassesse de l'instinct érigée en tyrannie, des pudeurs, des vertus, du patriotisme et de l'idéal des gens qui ont bien dîné. Vraiment, il n'y avait pas à attendre une pièce drôle, et les masques expliquent que le comique doit être tout au plus le comique macabre d'un clown anglais. Baudelaire aimait beaucoup les clowns anglais. Et d'une danse des morts. Jarry fut une star du collège pataphysique. Est-ce que Blois, grave question, pourrait être un pataphysicien? Un article très sérieux de Patrick Beignet dans le numéro sur le rire que nous avions fait avec Joseph Royer, dans la collection, dans la série Blois, Patrick Beignet démontre qu'il pourrait bien être lu comme un pataphysicien. Au contraire d'Étienne Payet, fondateur du célèbre collège, qui a, à mon avis, n'a rien compris à Blois. Il le confond avec Ubu. Jarry est un auteur difficile, et Blois aussi. Alors je voudrais signaler, mais on le sait, que Jarry avait fait à Blois l'honneur de placer le mendiant ingrat dans les livres pères de la bibliothèque de son docteur Fosterol. Alors, quant à Alphonse Allais, à la fin de la vie de Blois, il écrit deux chroniques élogieuses pour la sortie des 4 ans de captivité. Je cite « Pas un livre d'auteur gai n'est fichu de vous faire passer quelques heures aussi remplies de pure allégresse que les ouvrages de notre ami. » Ce qui lui plaît, c'est l'irrévérence. Blois, un être très pieux, d'une dévotion excessive, très calée en liturgie, s'indigne à la moindre entorse. Non seulement le clergé, mais le bon Dieu écope aussi. Également notre Seigneur Jésus-Christ. Alphonse Allais connaît-il la figure loyenne du Christ au dépotoir? Je réfléchissais sur la violence de cette image et la reliais à l'affirmation de Blois « Il est incontestable que Dieu n'existe plus ». C'est dans les Méditations d'un solitaire en 1916. Et je placerai le Léon Blois, le croyant, dans le processus de sécularisation et de désacralisation de notre société. Depuis Lautréamont jusqu'à Pierre Desproges. Dans le long processus de sécularisation, donc, il y a un moment charnière, celui des années 80, où commence une véritable désacralisation. C'est le début de la carrière de Blois, moment de rupture et de violence verbale où la parole se libère, c'est le moment des lois de liberté, de la presse, de conscience, etc. Et où la parole se libère et où le tabou de Dieu tombe. Alors explose un rire agressif et brutal. On pourrait multiplier les exemples en déroulant jusque dans l'époque moderne la liste de ces rires noirs qui jonglent avec ce qu'on pourrait appeler la mort de Dieu, c'est-à-dire la fin des certitudes, la fin de la croyance en l'absolu dans laquelle baignait Léon Blois. Mais Dieu n'en finit pas de mourir et j'aurais aimé dessiner la fresque des rires noirs où Blois aurait sa place, la fresque des écrivains de la mort de Dieu. Et pensez à Lautréamont, à Artaud, enfin je prends des noms aussi divers. Le russe Bulgakov, mais je n'ai pas le temps de le développer, le polonais Tadeusz Kantor, etc., etc. Jusqu'à la Pierre Desproges qui se considérait comme un athée mystique. Et bien plus tard, Cioran, au XXe siècle, décrira à son tour ce noir cabotinage, le cadavre de Dieu couche encore à ce moment, et il écrit « À force de précaution, je rôde autour des profondeurs, leur soutire quelques vertiges, et me débine comme un escroc du gouffre. » Léon Blois ne ressemble-t-il pas parfois à un escroc du gouffre dans sa complaisance à la violence ? Seulement, les autres croient pouvoir déboulonner la statue, et lui se bat pour la redresser. Le philosophe Clément Rosset, dans son livre sur le principe de cruauté, parlant de la cruauté comique, décrit une sorte de nihilisme jubilatoire. Ce principe, je cite, ce principe œuvre dans le registre de l'impitoyable et du désespoir. Mais il précise, désespoir, par quoi je n'entends pas une disposition d'esprit portée à la mélancolie, tant s'en faut, mais une disposition réfractaire absolument à tout ce qui ressemble à de l'espoir ou de l'attente. Blois, c'est cela et le contraire, spem contra spem. Voilà le credo quia absurdum de Blois. De cette œuvre tendue entre deux pôles contradictoires, la cruauté comique, pour reprendre l'expression de Rosset, la cruauté comique et la foi en un Dieu absent. En somme, un nihilisme jubilatoire dans la nuit de la foi. Pour finir, je voudrais dire deux mots du rire de la foi, plus précisément du paradoxe chrétien et de la folie de la croix. Je cite le théologien philosophe Stanislas Breton. Malheureusement, le pauvre Blois n'a pas entendu, n'a pas été formé par des théologiens de ce genre. Ce qui, dans le comique, écrit, inspiré par la croix, écrit Stanislas Breton. Ce qui, dans le comique inspiré par la croix, motive le fou rire, il est en train de parler des moines errants de la Russie médiévale, qu'on appelait les fous du Christ. Ce qui, dans le comique inspiré par la croix, motive le fou rire, c'est l'écart littéralement énorme entre le vrai Dieu, qui n'est rien, et ses principautés au nom divers qui se partagent l'empire de l'être. Ce grand éclat qui dégonfle les baudruches pour les réduire à leurs modestes proportions peut donc être un exercice salutaire de la foi. Les fous de Dieu pratiquaient donc un rire violent fait de dérision et d'une joie paradoxale. Blois est-il un fou de Dieu? Si j'avais eu le temps, j'aurais approfondi la comparaison entre deux écrivains de grande imagination et qui pratiquent le même humour, c'est Chesterton et Léon Blois. Chesterton, cet écrivain anglais, auteur de romans policiers où Dieu apparaît, et le détective étant le père Brown, hein, se convertit tardivement au catholicisme, attiré par le défi à la raison que cette religion lui offrait. Parce que Blois, comme Chesterton, prennent le contre-pied de la pensée dominante, au moyen d'un passéisme assez provocateur. Et Chesterton, et je voudrais finir sur réflexion sur le contexte où Blois a écrit, parce que Chesterton, c'est le début du XXe siècle, à peu près. Or, Chesterton, dans la conclusion d'Orthodoxie, où il raconte sa conversion, propose une théorie du rire de Dieu qui est aussi bouffonne que théologique et presque mystique. Pourquoi dit-on que Jésus n'a jamais ri? Parce que, dit-il, c'est une chose trop grande. Parce que la violence sans borne des choses divines nous basculerait comme une farce d'ivrogne. C'est-à-dire que derrière la farce tragique, Dieu cache son rire. Et Jésus? Alors, Jésus, il le présente comme un personnage timide et dit, il y avait une chose trop grande pour que Dieu pût nous la montrer quand il marchait sur notre terre. J'ai parfois imaginé que c'était son rire, avec un D majuscule. Et il conclut avec une certaine audace, la joie est le secret gigantesque des chrétiens. Kafka, qui comme Borges ou Claudel admirait Chesterton, il aurait fallu parler de Claudel aussi, et qui avait lu son essai Orthodoxie, là, disait, ce type est tellement joyeux qu'on voit tout de suite qu'il a rencontré Dieu. Et Blois, on ne pourrait pas l'affirmer. Mais Blois aimait aussi le secret, le rire caché de Dieu. Et pourquoi pas le rire caché de Léon Blois. Je conclus rapidement. Le Blois qui m'intéresse, ce n'est pas l'apocalyptique, ni le violent, mais l'humoriste et le mystique qui garde son secret. Je pense que peu à peu, Blois s'est construit une mystique négative qui fait penser, comme on l'a dit, à la figure juive d'une présence-absence de Dieu, la Shekhinah. Mystique qu'il apparente aussi aux théologies de la mort de Dieu, ou qui les annonce peut-être. Il semble avoir appris, on le sent dans certains textes tardifs, qu'il ne verrait pas, comme les premiers chrétiens, l'Apocalypse. Mais ce n'est qu'une hypothèse de lecture. Je vous remercie.